Donc voilà, je leur donne simplement comme consigne d'écrire avec les émotions et les émotions qu'ils ont ressenties. Et en fait, il n'y a pas besoin de plus, hein. Donc parce que naturellement, ils racontent, on voit, et puis c'est rigolo parce qu'on voit certaines personnes qui sont pas forcément discrètes dans la vie normale, et ça va être transcrit aussi dans le livre. Donc là, on va vraiment avoir toutes les émotions. Et puis on voit les gars qui sont un petit peu plus discrets, un petit peu plus renfermés, parce que c'est leur nature. Et puis là, ils vont appuyer sur les émotions. Et j'ai eu beaucoup de retours de ces gars-là qui, en fait, ils en ont jamais vraiment parlé, ni même à leur famille. Et ils étaient super contents d'avoir posé ça sur papier, juste en fait pour se dire, ok, cool, ok, on a mis ça sur papier, c'est chouette, nickel. Et puis comme ça, on arrive, ils viennent, et ils ont la tête peut-être un petit peu plus reposée.
Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Kélian Bière, ancien commando marine reconverti dans la photographie aquatique et co-auteur du livre United We Conquer, qui lève le voile sur une unité mythique de la marine nationale et des armées françaises. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier pour soutenir notre travail et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour Kélian, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Salut Fred, moi c'est Kélian Bière. Ancien commando marine, j'ai 28 ans aujourd'hui et je suis aujourd'hui photographe aquatique de surf particulièrement.
Ok, c'est quoi ton parcours avant d'être photographe aquatique?
Moi j'ai été, j'ai quitté, j'ai eu mon bac, j'ai été jusqu'au bac, cherché à avoir le bac pour commencer dans l'armée, pour avoir un petit background si jamais un jour je partais. Je pensais pas être photographe ce jour-là. Je suis rentré dans l'armée parce que je voulais absolument, depuis tout petit, faire commando marine. En 2015, du coup, j'ai eu mon bac, je suis rentré dans la marine, j'ai fait quelques mois en tant que fusilier marin à l'NBWA, et 6 mois après, j'ai tenté le stage commando. Ensuite, je suis rentré, j'ai fini le stage commando, je suis rentré au commando Jobert pendant 5 ans, puis au commando Kieffer pendant un an. Et à la suite, du coup, j'ai quitté l'armée. Je suis aujourd'hui photographe aquatique de surf.
C'est marrant comme reconversion, c'est pas tous les jours qu'on croise d'anciens militaires qui basculent photographe de surf.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, après, de base, depuis tout petit, je fais du surf, je suis passionné de surf. Et puis en fait, pour la petite histoire, donc moi je suis de Bretagne. Quand on surfait, j'y allais avec mon frère, et puis il traînait un petit peu plus que moi dans l'eau. Et en hiver, du coup, j'avais plus rapidement froid que lui, donc je sortais de l'eau. Et puis j'avais pas envie de rester sur le sable à rien faire en attendant que nos parents viennent nous chercher. Donc c'est là où j'ai acheté un appareil photo, et c'est là où ça a commencé la photographie depuis le sable pour prendre le frangin en photo de surf, quoi. Et ensuite, c'est devenu tranquillement une passion, et ça s'est transformé en photo aquatique. Et puis voilà, aujourd'hui, du coup, on essaye de travailler de sa passion au maximum.
Ouais, excellent. Si on voulait t'inviter dans le podcast, c'est aussi pour parler d'un bouquin que tu as coécrit qui s'appelle United We Conquer sur les commandos marines, un très beau livre photo édité chez Solar. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, tout à fait. Alors, avant de partir de l'armée, quand j'étais au commando Kieffer, j'ai commencé à travailler sur le bouquin. Donc j'ai réuni. J'avais en tête de photographier des visages de commando, des visages assez marqués. En fait, mon père aussi est commando marine. Et quand j'étais petit, j'écoutais ses histoires. J'écoutais les histoires de tous ses amis qui sont eux aussi commando marine. Et puis en grandissant, je me suis dit, bah mince, quoi, j'ai pas envie que toutes ces histoires qui sont assez folles, assez insolites, où derrière il y a beaucoup de morale, j'ai pas envie que ces histoires, en fait, elles partent aux oubliettes avec eux. Et du coup, je me suis dit, bah, ce travail de photographe, je vais mettre en valeur ce que je sais faire. Donc je vais faire mon travail de photographe, j'ai aussi récupéré leurs interviews. Et donc voilà, c'est pour ça. Donc dans ce livre-là, on retrouve une cinquantaine, un peu plus de 50 interviews de commandos marines. Ça va des mecs de ma génération, donc la trentaine, jusqu'à des anciens, bah jusqu'à Léon Gauthier, qui est en photo de couverture là, qui est aujourd'hui décédé et qui a participé au débarquement de la Seconde Guerre mondiale sur les plages de Normandie. Donc voilà, donc on a tout ce spectre-là. Et voilà, donc en fait, il y a les visages des gars et à côté, il y a des récits insolites qu'ont vécu ces personnes-là. Avec quelques photos un peu que j'ai pu prendre durant mes quelques missions pour imager un peu le livre. Voilà.
Ouais, il y a des super photos essentiellement en noir et blanc. J'imagine qu'il y a un choix artistique qui est vraiment lié au sujet, non? Le côté ombre, homme de l'ombre. Hein.
Ouais, c'est ça. Donc, ouais, tout à fait, c'est ça. Puis il y a aussi le fait que le noir et blanc, c'est une façon de travailler qui marque assez les visages, surtout dans le portrait. Et c'est ce que je voulais faire ressortir parce que c'est des visages d'hommes avec beaucoup de cicatrices, beaucoup de rides pour certains. Et je voulais que l'ombre soit travaillée à 100%. Et en parallèle de ça, on a une seule photo en couleur. Et du coup, c'est la photo de Monsieur Gauthier. Voilà, qui fait c'est un peu l'unique photo, et puis c'est la personne qui est décédée dans ce livre-là. Donc on a d'autres témoignages de personnes pour rendre hommage à des personnes qui sont décédées, mais lui qui est décédé après la sortie du livre, non, juste avant, pardon, juste avant la sortie du livre, quelques mois avant la sortie du livre, voilà, bah c'est ce monsieur-là qui est en couleur, et puis je trouve que du coup ça reflète bien l'idée dans le livre, quoi. C'est vraiment un livre pour rendre hommage à ces gens-là, et puis voilà, pour récupérer des histoires vraiment insolites, et puis pour que les jeunes et les moins jeunes puissent lire, puissent se rendre compte de quoi on parle dans ce métier qui est un petit peu particulier, qui est très discret aux yeux du grand public. Voilà, on dévoile un petit peu de choses sans trop en dévoiler, bien sûr. Et donc voilà, pour un peu tout le monde, c'est assez intéressant. Donc voilà, United We Conquer.
Super. Tu l'expliques dans la préface, mais pourquoi ce titre?
Alors, United We Conquer, c'est la devise des commandos marines aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle est en anglais? C'est parce que les commandos marines, en 1944, ils ont été appelés en Angleterre pour s'entraîner avec les commandos anglais. Donc, ils ont été en Écosse, à Knacharie, pour s'entraîner, pour passer leur premier stage commando. Ils ont sorti un groupe de 177 hommes français, du coup, entraînés par les Anglais et les Écossais. Et ces hommes-là sont devenus les premiers commandos du commando Kieffer, donc c'était leur commandant. A débarqué du coup le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. C'est les seuls Français à avoir foulé le sable cette journée-là, et c'est ceux qui sont arrivés en premier sur les côtes, du coup, avant les Anglais, avant les Américains. Donc voilà, ce qui est un peu sous le fait dès le début.
Pour revenir sur ton parcours et sans entrer dans les détails, parce que forcément c'est logique, tu peux pas parler de tes missions comme on a reçu pas mal de tes de camarades de ton unité aussi, de savoir Teddy, Matt, Louis, il y a même Marius qui est passé aussi sur le podcast et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les commandos marines. Je vais pas te demander ce que c'est le stage co, je vais pas te demander ce genre de choses parce que je vais renvoyer les gens sur ces épisodes-là. Par contre, à la différence d'eux, t'as passé un peu moins de temps dans l'institution. Tu es plus jeune aussi. Comment toi, tu as vécu ton passage et d'autant plus en ayant ensuite rencontré des anciens et pas juste rencontrés, en les ayant interrogés, photographiés, en ayant été assez intime avec eux, parce que ce qu'ils te racontent aussi, c'est une part de leur souvenir, de leur histoire. Comment toi, tu as vécu ce passage chez les commandes marines?
Ouais, alors bah, du coup, comme je te disais, moi, je suis fils de commando marine. Alors, je pense que c'est ce qui m'a axé vers ce métier-là, en tout cas au début. Donc, j'avais l'envie d'aller chercher le béret vert. Donc j'ai été chercher le béret vert. Et ensuite, donc je connaissais déjà le métier, bien sûr, par l'écoute, en écoutant mon père et ses amis, mais comparé à d'autres personnes qui étaient vraiment passionnées par ce métier-là, et puis tous les amis qui étaient avec moi au stage commando, j'ai découvert tranquillement ce qu'était vraiment à l'intérieur le métier de commando, et puis petit à petit, ça m'a plu. Et du coup, c'est pour ça, donc j'ai poussé jusqu'à 6 ans, et c'était 6 très belles années. Les premières années étaient très compliquées parce que quand on arrive en tant que jeune, et ben dès qu'on fait des erreurs ou quoi que ce soit, ben, en fait c'est un métier où on évite au maximum les erreurs parce que ben, les erreurs ça peut engendrer la pire des punitions, ça peut engendrer la mort des camarades et ainsi de suite. Donc même à l'entraînement, on évite les erreurs et il faut très vite apprendre, il faut très très vite apprendre. Et faut éviter un maximum d'erreurs, il faut être très réfléchi, il faut avoir une sens d'analyse assez poussée, d'interprétation, enfin, c'est assez intelligent comme métier, justement, comme beaucoup pourraient penser, beaucoup pourraient se dire que c'est un métier qui est très, très têtu, très, très combattant, mais en fait, non, pas du tout, c'est très réfléchi comme travail. Et du coup, voilà, donc il y a tout cet aspect-là. Et donc, pour les premiers arrivés, donc là, je parle pour moi, je parle pour tout le monde, pour tous ceux qui commencent dans leur groupe d'assaut en commando, donc après le stage commando, c'est une première année qui est très compliquée. Donc voilà, en plus de tout ça, il y a la pression des nouveaux chefs de groupe, des nouveaux chefs d'équipe. Donc, c'est pas évident, mais ça apprend énormément de choses. Mais effectivement, faut pas avoir peur de la pression, quoi. Il y en a qui travaillent mieux avec la pression, il y en a qui travaillent un peu moins bien avec la pression. Et je pense que c'est un métier où il faut savoir travailler avec la pression. Bah, c'est pas, je pense que c'est certain, c'est un métier où il faut accepter la pression. Donc voilà. Maintenant, dans ce milieu-là, donc tranquillement, une fois qu'on grandit, entre guillemets, une fois qu'on a fait nos quelques années ou une fois qu'on a mangé notre pain noir. Et en fait, petit à petit, donc on devient bon, et en fait, il n'y a plus qu'à s'améliorer petit à petit. Et puis, chacun part un peu dans des domaines un peu particuliers. Moi, quand j'étais en groupe d'assaut, par exemple, j'étais l'OPSC de mon groupe. Donc, l'OPSC, c'est l'opérateur de premier secours au combat. C'est le mec qui va récupérer le blessé, qui va manipuler le blessé avant que. Donc, sur le terrain même, parce que les médecins et les infirmiers, en général, ne suivent pas dans les missions donc jusqu'au baraquement et ainsi de suite. Du coup, c'est le premier gars qui va manipuler le blessé. Il va en fait maintenir en vie le blessé jusqu'à ce quand il récupère le médecin dans l'hélico, qu'il balance le blessé au médecin et là, le médecin, lui, il fait son travail. Donc voilà, tout ça pour dire que chacun, donc il y a l'OPSC, il y a le radio, il y a le mec qui va être. Spécialisé dans la photographie, dans l'escalade, enfin tout le monde a son spectre en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, en fait, au final, plus on grandit, et puis en fait, il y a même des anciens qui viennent te voir et qui demandent ok, là, si j'ai un blessé, comment est-ce que je peux m'en sortir, comment est-ce que je fais, et tout, enfin, tactiquement parlant et tout, même, donc ça devient intéressant. Donc les premières années sont très dures, et puis après, quand on a passé. La première année, en gros. Là, après, on a ce mot à dire, c'est pas. Donc, c'est assez chouette. Très, très intéressant. Du coup, voilà. En fait, c'est une grosse famille, donc c'est intergénérationnel. Et c'est pour ça, même là, aujourd'hui, j'ai des amis qui ont plus de 70 ans, mais c'est des amis, quoi. Donc voilà. Pour prendre les récits, c'était pas si compliqué. On allait boire une bière ensemble. Hein, j'écoutais le récit, Et puis après, soit les gars préféraient l'écrire et puis ils me l'envoyaient, soit j'écoutais, j'écrivais derrière, et puis je leur envoyais, ils me le validaient, et puis voilà. Donc en gros, voilà. J'ai répondu à ta question. Je sais plus c'était quoi ta question.
Ouais, plus ou moins la question, mais je vais l'affiner un peu pour que ce soit encore plus simple. Qu'est-ce que toi tu retiens? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tu as développé comme nouvelle compétence? Ou tu vois, qu'est-ce qui t'a fait grandir à travers cette expérience-là?
Ouais, alors moi j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vraiment, enfin, sur moi j'ai appris beaucoup de choses parce que déjà je suis pas du tout scolaire. Alors jusqu'à donc excepté sportivement parlant, parce que j'ai fait voilà, j'ai fait du judo en compétition, je m'en sortais bien dans tous les sports. Donc excepté cet aspect-là de la vie avant l'armée, scolairement parlant, c'était pas bah, j'étais pas j'avais pas envie de travailler, donc c'était pas dingue. J'avais beaucoup de et en fait c'est petit à petit sans s'en rendre compte, c'était bah en fait ça mange, et puis en fait petit à petit tu perds confiance et tout ça, et cet aspect bah à commencer par le stage commando, même si tu ramasses, même si tout ça, bah une fois que tu finis, en fait tu développes une confiance qui est dingue. C'est pas une mauvaise confiance, parce que c'est genre tu restes humble, tu restes à ta place, tu sais très bien qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur. Ouais, tu sais très bien que même face à la nature, ben, on n'est rien. Il y a plein de voilà, il y a plein de ces aspects-là. Donc on garde une certaine, enfin on reste humble. Mais par contre, enfin derrière, moi personnellement, j'ai pris beaucoup de confiance en moi, et je pense que c'est le plus beau cadeau qui m'est fait, en fait. Donc ouais, ça c'est ce que je ça c'est ce que j'ai reçu. C'est ce que j'ai reçu aujourd'hui, et c'est ce que je retiendrai, c'est ce qui m'a marqué le plus.
J'imagine qu'en plus dans cette reconversion vers un métier qui est pas simple, métier de photographe, je connais parce que je le fais aussi. En étant indépendant, tu as quand même besoin de beaucoup de confiance en toi.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as développé d'autre, peut-être comme compétences qui t'aident aujourd'hui?
Ah, c'est sûr que bah, après. Hein, tu sais, au-delà de ça, il faut apprendre à s'organiser. Ça, je l'ai appris là-bas. Bon, c'est de l'organisation. Oui, c'est de la confiance. C'est du travail. Faut pas avoir peur du travail aussi, parce que là-bas, quand on commence une journée, on la commence à 7 heures, puis on ne sait pas à quelle heure ça va finir. Si on a une manip de nuit qui dure bah, jusqu'à 4-5 heures du matin, et ben, on rentre à 5 heures du matin, on nettoie le matériel, puis on reprend la journée à 7-8 heures. En fait, on ne compte pas les horaires. Et ça aussi, typiquement, c'est le. C'est, bah, c'est pas... Après, on ne considère pas vraiment ça comme étant un travail, parce que les mecs sont vraiment passionnés, et les mecs, ils font ça à 100%. Mais moi perso aussi, ouais, c'est ce qui m'a appris. Et aujourd'hui, j'ai plus peur des charges de travail que je peux avoir. Si j'ai une grosse charge, ça va pas m'embêter de me lever à 4 heures du matin pour travailler. Ça va pas m'embêter de finir à 3 heures du matin. Enfin bref. Et ça aussi, c'est super important. Et il y a aussi derrière tout ça, il y a une certaine légitimité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vais voir un éditeur pour parler de mon travail, il va savoir. Alors, il va savoir à travers cet ancien travail que c'est quelqu'un qui sait travailler, c'est quelqu'un qui va pas laisser tomber, et ainsi de suite. Donc il y a aussi cet aspect-là de légitimité qui aide quand on quitte ce boulot.
Ouais, c'est clair que pour le coup, un ancien commando, il a intérêt à être fiable dans un
Voilà.
milieu professionnel.
Ouais, bah, en général, les mecs qui quittent, même si donc, certains quittent pour. Bah pour un peu tous les métiers, ça peut aller de l'élagueur, ça peut aller du photographe, ça peut aller via vraiment un peu de tout. Et puis en général, en tout cas tous ceux que je connaisse, bah ils s'en sortent très bien dans ce qu'ils font, et puis ils adorent, alors qu'ils ont jamais eu de notion particulière de leur métier. Ils se sont juste dit bon bah moi je quitte, et puis j'aime la nature, j'aime les arbres, j'aime tout ça, j'aime être au contact de tout ça, j'ai envie de faire élagueur. Puis des mecs qui font leur métier d'élagueur, et puis en moins de 2 ans, ils sont sur le marché, et puis ils s'en sortent aussi bien que les mecs qui y sont depuis 20 ans. C'est assez rigolo à voir. Mais du coup, ouais, je pense que c'est un peu la caractéristique du commando, c'est que dans n'importe quelle situation, même les plus délicates, il va réussir à se frayer son chemin. Et puis même si c'est pas un chemin commun, en gros, même si c'est pas un chemin cas école, qui va emprunter, bah, il va quand même trouver sa voie. Et du coup, voilà, en gros, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on acquiert. C'est vraiment trouver à chaque fois dans les canons conformes, trouver des petites solutions pour toujours aller de l'avant, et puis pour faire en sorte que tout va bien, en fait, hein.
Depuis la création des commandos, donc tu racontais 1944, il y a eu énormément d'évolutions dans les armées en général et dans les missions des commandos. toi, en ayant échangé comme ça avec des anciens qui ont connu des périodes plus anciennes que la tienne, est-ce que tu remarques une certaine continuité malgré le fait que les matériels évoluent, les missions évoluent, les façons de penser évoluent? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un fil rouge comme ça, assez évident?
Le matériel évolue, c'est sûr. Les missions évoluent complètement et puis elles évoluent encore. Moi, depuis que je suis parti, les missions ont changé, c'est plus les mêmes. Donc elles évoluent encore. Je dirais même que les générations évoluent aussi. Vraiment, tout un aspect évolue. Alors, je ne peux pas te parler du côté militaire en soi, parce que je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas te parler de ça. Je peux te parler enfin, du côté militaire, du coup, je peux te parler du côté plus peut-être force spéciale commando. Et en gros, ça se voit qu'il y a quand même, genre, les gars, c'est les gars qui ont 70 ans, c'est les mêmes qui sont aujourd'hui à 25 ans. C'est la même mentalité, c'est le même état d'esprit. C'est un état d'esprit assez réfléchi, assez combatif. Pour certains, voilà, qui sont fiers de leur pays, qui sont fiers d'être où ils sont. Et puis voilà, en fait, les mecs, je pense que. Je pense que c'est le même état d'esprit en tout cas. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses autour qui ont évolué. Et c'est pas, mais même de toute manière, même tactiquement parlant ou techniquement parlant, c'est pas la génération de mon père, c'est pas la même que la mienne. On va pas utiliser la même façon de faire sur un assaut. Quoique, il y a quand même des bases qui sont très très solides. En fait, tout tourne autour de ces bases-là, mais après, en fonction des mecs qui sont en face, en fonction du terrain, tout peut évoluer autour de ces bases-là qui sont très solides. Donc ça a évolué, mais pas trop. En tout cas, l'état d'esprit, je pense qu'il est le même.
Ouais. Le côté patriotique, tu veux dire, de sens d'engagement?
Sans engagement, ouais, complètement. Aussi le fait que les mecs bah, ils sont fiers de la France, ils sont fiers de c'est un pays pour moi la France c'est un pays qui représente la liberté et aujourd'hui en gros c'est si je dois me battre pour quelque chose c'est pour la liberté et c'est en gros c'est ce qui je trouve bah, c'est je trouve c'est ce qui correspond le mieux en fait à comment dire, à la définition de la France en fait et c'est pour ça que les gars sont fiers de défendre un pays comme la France et pour continuer dans cette lancée-là, pour continuer comme les anciens, les 177 qui ont débarqué pour la liberté de leur pays, bah, au final, c'est un peu dans le même état d'esprit, c'est la même continuité. Donc voilà. C'est un métier où on n'intervient pas à l'intérieur de la France, on intervient que à l'extérieur. Mais ces interventions-là, en fait, permettent de couper le réseau externe avec le réseau interne. Et du coup, certains assauts, vont permettre de par exemple d'éviter qu'il y ait un attentat en France et tout ça en gros donc à travers cette extériorisation-là des missions et ben en fait on intervient indirectement en France du coup ça évite certaines choses qui pourraient qui donc des attentats et tout ça quoi.
Ouais. Et alors, avec l'évolution de. On se rend bien compte, sans tomber dans l'analyse géopolitique approfondie, on se rend compte en allumant la télé que la donne, elle change en ce moment et qu'il y a peut-être ce moment de bascule qui est en train d'arriver, peut-être vers une autre guerre mondiale. Enfin, on ne sait pas trop vers quoi on va, mais en tout cas, on se rend compte que les dividendes de la paix commencent à être bien consommés et que la guerre est revenue en Europe et qu'il y a des conflits ne sont pas loin. Cette force expéditionnaire qu'est le commando et notamment le commando marine, comment toi tu le vois, toi, à ton niveau, comme ça, en étant maintenant de l'extérieur, en ayant un peu de recul et puis surtout en ayant échangé avec des gens qui ont connu notre époque?
Ouais, alors là, déjà, je suis pas, moi personnellement, là aujourd'hui, je suis pas au fait de ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, même si les missions ont évolué probablement. Je sais pas où est-ce que les gars sont, je sais pas ce qu'ils font. Puis c'est des aspects qu'on évite d'évoquer quand ils rentrent de mission. On essaie plus de parler d'autres choses pour passer à autre chose, pour respirer un petit peu. Maintenant, comment je vois ça? Moi, je pense que de toute manière, ça c'est mon point de vue, mais je pense que il y aura toujours des conflits, que ce soit aujourd'hui en Ukraine, enfin hier au Sahel. Je pense qu'il y aura toujours des conflits, il y en aura d'autres, et je pense que les mecs seront toujours déployés à gauche, à droite. Je pense que ce sera sans arrêt, malheureusement, parce que ça reste la nature propre de l'homme, de certains hommes en tout cas. Donc voilà.
Ouais. Bah, en parlant d'hommes, justement, à la fin du texte que tu as mis en introduction dans le bouquin, je te cite, vous l'aurez compris, ce ne sont pas seulement des histoires de soldats, mais aussi d'hommes qui sont illustrés ici. C'est assez rare quand même, mine de rien, même si on voit quand même de plus en plus de contenu sur les commandos marines. Il y a des émissions de télé, il y a des bouquins, il y a des podcasts. On est un peu responsable aussi du truc. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir des témoignages des gens qui composent des unités sur vraiment le côté humain. C'était un objectif du coup dans le bouquin et comment tu as essayé de le faire, enfin, comment tu l'as fait vraiment sortir du lot cet aspect-là?
Ouais, bah en fait, il n'y a pas forcément besoin d'en dire plus. En fait, moi, je laisse les gars raconter leur histoire comme ils ont envie de le raconter. On sait très bien que tout le monde est pareil, même. Enfin, sauf pour moi, la personne qui va pas être touchée, c'est qu'elle n'est pas forcément nette dans sa tête, en fait. Donc, chacun est touché à son degré. Bien sûr, c'est pas parce qu'on rentre de mission que tout va mal et ainsi de suite. Au contraire, mais c'est sûr et que même le fait, pas forcément le fait d'avoir participé à la mission, mais le fait d'avoir simplement vu certaines choses, et ben ça peut travailler, et c'est logique que ça travaille. C'est logique quand on voit la misère du monde, et ben effectivement ça peut travailler, c'est normal. Et le contraire serait assez inquiétant. Donc en fait, tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'orienter les mecs. Les mecs racontent avec leur cœur l'histoire. Et comme c'est des gars qui ont la tête bien faite et puis qui ont des émotions, comme beaucoup, et ben en fait ils racontent. J'aurais simplement dit de mettre un point d'honneur à raconter leurs émotions, parce qu'on est dans un milieu qui est très humble. C'est très compliqué d'aller chercher des histoires comme ça avec. Avec les jeunes, parce que les jeunes, ils ont pas forcément envie que les plus anciens écoutent leurs histoires. Ils se sentent un peu comme moi, en fait, pas légitimes à raconter certaines histoires. Donc là, c'est vraiment compliqué d'aller récupérer des histoires. Et il y a les anciens qui, pour eux, en fait, ils gardent leurs histoires parce que ils ont pas, ils veulent rester sur ce côté humble. Mais du coup, quand on l'apporte avec un aspect différent, en leur racontant que c'est des histoires qui peuvent être lues par le plus jeune, et puis que le plus jeune demain, il va peut-être tomber amoureux de ce métier-là, il va peut-être faire ce métier parce qu'il a adoré les valeurs qui étaient partagées dans le livre. Donc voilà, je leur donne simplement comme consigne d'écrire avec les émotions et les émotions qu'ils ont ressenties. Et en fait, il n'y a pas besoin de plus, hein. Donc, parce que naturellement, il raconte, on voit, et puis c'est rigolo parce qu'on voit certaines personnes qui sont très, qui sont pas forcément discrètes dans la vie normale, et ça va être transcrit aussi dans le livre. Donc là, on va vraiment avoir toutes les émotions. Et puis on voit les gars qui sont un petit peu plus discrets, un petit peu plus renfermés, parce que c'est leur nature. Et puis là, ils vont appuyer sur les émotions. Et j'ai eu beaucoup de retours. De ces gars-là qui, en fait, ils n'en ont jamais vraiment parlé, ni même à leur famille. Et ils étaient super contents d'avoir posé ça sur papier, juste en fait pour se dire, ok, cool, ok, on a mis ça sur papier, c'est chouette, nickel. Et puis comme ça, on arrive, et ben, ils viennent, et ils ont la tête peut-être un petit peu plus reposée. J'ai d'autres personnes qui je pense à un ami, du coup, qui doit avoir plus ou moins 60 ans. Qui a fait une chute en, en, en avion et qui son parachute ne s'est pas déployé. En tout cas, son parachute s'est enroulé dans ses jambes. Du coup, bah, il a fait un au bas, quoi. Et puis, quand il a touché le sol, il était paraplégique. Et il n'a jamais su raconter ça ni à son frère ni à ses enfants. Et en fait, il l'a écrit dans le livre. Et puis, sa famille l'a lu. Et en fait, il était content de pouvoir expliquer à sa famille comment ça s'est passé, mais sans forcément mettre les mots dessus, simplement parce que les gens ont lu, et en gros, voilà, donc il est venu, il m'a remercié, il était super content d'avoir pu expliquer ça à ses enfants, voilà, sans forcément poser les mots dessus, et puis voilà, hein. C'est aussi à ça que ça sert l'écriture, et c'est ça qui est beau dans l'écriture, c'est qu'on prend le temps de réfléchir. On prend le temps de mettre vraiment, de peser les mots, de mettre vraiment le mot qu'on veut derrière le mot qu'on veut, parce que c'est cette émotion-là qu'on veut faire ressentir, et puis c'est ce qu'on a ressenti, et c'est ce qu'on veut faire lire aux gens. Et ce qui est différent, moi, je trouve, avec la parole, parce qu'avec la parole, on parle, on débite, et puis des fois, on dit des choses plus hautes que d'autres, et puis sans forcément même s'en rendre compte. Alors que dans un livre, on a le temps de relire, de repasser dessus, et du coup, c'est plus compréhensible.
Ouais. Et puis tes photos, tes portraits. Bon, moi, je suis sensible à l'image, mais je suis pas le seul. Il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent, qui aiment aussi la photo, la belle photo, et c'est super de voir en plus des portraits où juste en regardant le regard d'une personne, tu comprends déjà beaucoup de choses. C'est vachement bien.
Ouais, tout à fait. Les regards sont assez expressifs, ouais, complètement. Complètement, ouais.
Ce bouquin, il a eu un bon écho, j'imagine, au sein de l'institution. Ou au contraire, il y a eu peut-être des bâtons dans les roues, qui ont été mis pour parler des histoires, ce genre de choses.
J'ai pas eu de retour j'ai pas eu ou peu de retours. En général, les retours que j'ai eus, alors chez les anciens et tous, ont été que j'ai eu énormément de retours très positifs. Les mecs étaient trop contents du résultat, ils ont bien aimé le livre et tout ça. Au sein des commandos d'actifs, j'ai pas eu de retour. Et en général, quand on n'a pas de retour, c'est que c'est bien. C'est
D'accord.
vrai. Donc,
Et
ouais.
au sein du CIRPA ou de l'état-major des armées ou au niveau de la communication des armées?
Alors, au niveau de la communication des armées, il n'y a pas grand-chose, mais en même temps, ce n'est pas un travail qui a été fait, en coopération avec eux, donc j'entends. Et puis voilà, après, la préface, par exemple, c'est l'amiral actuel de la force des fusiliers marins et commandos qui l'a écrite. Ils ont eu la maquette entre les mains avant la diffusion. J'imagine que s'il a écrit la préface, c'est que la maquette lui a plu, c'est que certaines histoires lui ont plu. Donc voilà, j'ai pas eu de, à part les amis qui y sont et qui sont très contents du résultat, j'ai pas eu plus de retours. Et du coup, c'est très bien parce que quand il n'y a pas de retour, ça veut dire que ça n'a pas froissé des esprits ni quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, en tout cas, je touche du bois et c'est chouette. Tout le monde est content, que ce soit les personnes qui l'achètent et qui sont pas militaires, que ce soit les militaires, que ce soit les amis, que ce soit les anciens, moi-même d'ailleurs. Tout le monde est plus que l'éditeur aussi. Tout le monde est content du résultat, tout le monde est content du livre. Et c'est chouette, ça fait plaisir, mais en même temps, ça m'étonne pas. C'est un livre qui a été fait avec le cœur, que ce soit moi ou encore les personnes qui ont écrit pour ce livre. Je pense aussi à Jean, du coup, qui a coécrit le livre avec moi. Tout le monde l'a fait avec le cœur, tout le monde l'a fait à 100%. Et on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc voilà, il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. Voilà.
Ah, c'est clair, c'est un super objet. Je te posais la question sur l'accueil l'accueil de l'institution, parce que bah, on avait parlé dans le précédent épisode avec Louis Saillant ou avec Alex, du premier PMA qui avait eu, alors, ils n'ont pas eu de déboires, mais il y a eu quelques échanges quand même parce qu'ils parlaient d'opérations, donc forcément c'était. Et puis aussi ce côté de montrer une certaine vulnérabilité dans ces gens-là qui sont pas censés trop montrer. Tu vois, je te parle par exemple d'un, je citerai pas le nom de l'unité, mais une unité de police d'élite, qui j'avais proposé un travail où on pouvait montrer un peu le côté humain, le côté père de famille parfois, tu vois, des opérateurs. Et je me rappelle d'un chef d'unité qui me disait, mais moi, j'ai pas envie que les gens, ils voient ce côté-là. Moi, pour moi, il faut que le mec chez lui, quand la porte est éclatée, il voit un mec en noir, un bouclier, un flingue. Et le côté, tu vois, l'exact inverse du côté vulnérable, quoi.
Ok, je vois. Alors, c'est pas là ce qui ressort dans le livre là, c'est pas du tout la vulnérabilité, hein, parce que les mecs iront au bout à 100% quoi qu'il arrive. Il y a pas de, c'est plus un aspect authentique et humain parce que bah, comme je te disais tout à l'heure, le mec qui ressent rien, c'est un mec qui est pas net ou enfin tout le monde est censé ressentir quelque chose. Et c'est plus cet aspect-là que, en tout cas, moi j'ai cherché à faire ressortir. Et surtout pas le côté vulnérabilité, parce que je sais très bien comment sont les gars, et les gars, ils vont, bah, la preuve avec Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont. Les mecs, s'ils doivent aller au bout, ils vont au bout, et il n'y a pas de... Ils sont assez intelligents, ils ont un état d'âme quand il faut en avoir, et puis ils sont intelligents pour faire la part des choses. Donc non, il n'y a pas de... C'est pas une question de ça. Après, oui, je comprends certaines personnes qui pensent comme ça. Moi, perso, c'est pas du tout mon ressenti. Parce que chacun est comme il est. Et puis, c'est pas parce qu'on fait... Ça, c'est pas parce qu'on fait pas partie d'une unité d'élite qu'on pourrait pas l'être, en fait. Hein. Donc, chacun a choisi la voie qu'il a choisi de faire. Donc voilà, bon, voilà, chacun pense comme il veut, et c'est certain que chez nous aussi, il y a des gars qui pensent comme ça. Mais en tout cas, ils sont restés discrets par rapport à ce livre-là, et je pense que c'est logique qu'ils restent discrets, parce que ce serait malvenu de faire des réflexions sur un livre qui met en avant les anciens, qui met en avant nos camarades qui ont été décédés. Donc là, si quelqu'un fait un reproche ou quoi que ce soit, je pense qu'il serait un peu mal. Il serait pas accompagné, ce serait malvenu de sa part. Et puis, je pense que les gens autour de lui diraient de faire doucement, en fait. Hein, mais je crois pas qu'on ait des gars comme ça chez nous.
Ouais. Alors, c'est vrai que vulnérabilité, c'est vrai que c'est le côté comment ça pourrait être perçu, mais je pensais plus au côté humain, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais, l'armée, la communication des armées depuis toujours, et ça évolue un peu, mais globalement, quand tu parles avec des communicants, il y a toujours cette volonté de montrer le côté le militaire, c'est une machine de guerre, il est là pour assurer la paix, mais être capable de faire la guerre, et du coup, tu vois, il n'y a pas trop de place aux émotions, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça peut être perçu comme une vulnérabilité, mais c'est plus au côté humain, tu vois.
Alors en fait, là où il faut faire la part des choses, je pense, c'est que en fait, on s'entraîne tellement 7 sur 7, H24, on est tellement dans un mood d'entraînement, même dans l'entraînement, on est mis dans des rudes conditions. Je pense que arrivé le jour J, en fait, c'est là où on ressent pas de vulnérabilité, c'est là où les gars, ils vont être... À 100%, ils vont faire leur travail vraiment, parce qu'en fait, ils vont être dans un bulle, un peu dans leur bulle, un peu comme dans un jeu vidéo, en fait. Et du coup, ils vont vraiment faire leur travail à 100% comme ils doivent le faire. Et c'est peut-être après le lendemain, une fois que c'est passé, que là, l'humain, il revient, entre guillemets, hein. Et puis, c'est là peut-être où certaines choses peuvent toucher plus que d'autres. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des degrés différents. Certaines personnes sont peut-être un petit peu plus touchées. Encore que ça va, après, ça fait partie du travail, mais effectivement, quand on l'a jamais vécu, je pense qu'on peut pas savoir ce qu'il en est vraiment, en fait, hein. Donc voilà, je pense que sur le jour J, il y a vraiment pas cet aspect de vulnérabilité.
Ouais, bien sûr.
Dans l'action même, je pense que vraiment c'est un peu comme ouais, comme je te dis, c'est vraiment l'aspect après, moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais t'es dans ta bulle, et c'est un jeu, quoi. Ouais. Un jeu
Bien sûr.
entre guillemets.
Je comprends. Est-ce que tu aurais une anecdote dont on t'a qui est dans le livre pour me donner envie de le lire? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué, toi? Personnellement, plus que d'autres.
Ouais, bah, moi, je vais donner une anecdote. Alors, C'est peut-être pas la plus celle qui va faire vendre le livre voilà le plus, mais moi c'est celle qui m'a le plus touché. C'est donc en fait du coup bah je vais profiter pour raconter deux anecdotes parce que c'est deux anecdotes qui sont parallèles. Donc c'est l'histoire du carré d'as. C'est une histoire peut-être que tu connais le carré d'as.
Non.
C'est une histoire assez connue. C'est l'histoire d'une donc c'est un voilier, donc c'est un couple de personnes qui récupère un voilier d'Australie, je crois, pour l'envoyer jusqu'en France, il me semble. Et du coup, ces personnes-là font appel, donc en arrivant dans l'océan Indien, ils font appel à leur assurance, je crois, pour demander à faire le tour. Le tour de à contourner l'Afrique en gros par le bas pour pas passer à côté de la Somalie parce que il y a beaucoup d'attaques de piraterie en Somalie. Donc les assureurs sont pas d'accord parce que c'est une question de vent ou je sais pas. Donc leurs assureurs sont pas d'accord et leurs assureurs du coup ne les suivent pas si font le tour par la corne de l'Afrique. Donc bah, ils décident le plus discrètement possible de passer devant les côtes somaliennes. Donc, tout feu éteint, le plus discrètement possible, ils passent. Et puis, malheureusement, ils se font repérer par un groupe de pirates somaliens. Donc, les pirates somaliens montent à bord. Juste avant de monter à bord, il y a le capitaine, donc le mari, qui arrive à envoyer un message d'alerte, un message d'SOS disant qu'ils se font prendre à partie par des pirates. Donc voilà, là les pirates prennent pied sur le voilier. Donc le couple est pris en otage. Les pirates prennent la barre et puis ils se dirigent tranquillement vers la Somalie. Donc là, je ne vais pas tout raconter parce que c'est un détail dans le livre. Donc voilà, ils sont pris, ils restent quand même 2 semaines en tant qu'otage. Pendant ces 2 semaines-là, il y a le commando Hubert, donc les nageurs de combat qui sont déployés à Djibouti, du coup la base avancée. Et du coup bah ils travaillent voilà ils travaillent sur l'assaut du voilier, ils représentent le voilier par tous les moyens qu'ils peuvent faire en taille réelle pour travailler leur assaut, voilà, parce que c'est quelque chose qui se fait pas surtout quand il y a des otages, c'est quelque chose qui est vraiment millimétré, c'est pas quelque chose qui est fait au dernier moment. Donc ils arrivent depuis la mer sur les Zodiacs, ils arrivent depuis la mer. Donc ils voient le voilier qui est pris donc qui voilà ils voient les otages sur le voilier. Il y a une sentinelle sur le pont du voilier. Là le tireur d'élite neutralise la sentinelle. Il y a un premier Zodiac qui arrive au cul du voilier. Le groupe commando monte dans le voilier. Ils ouvrent la porte du voilier. Ils neutralisent deux autres preneurs d'otages. Donc ils continuent à investiguer le voilier. Donc là, ils récupèrent le capitaine en premier. Et puis après, du coup, bah, ils en récupèrent deux autres preneurs d'otages, je crois, dans la dernière pièce. Et du coup, voilà. Donc tout ça pour dire que du coup, l'assaut s'est très bien passé. Les deux otages ont été libérés. Et voilà, donc le chef de groupe du groupe du commando Hubert qui est intervenu sur les voiliers dit à l'otage, au capitaine, il lui dit, OK, ça marche, bah. Juste, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on remonte l'ancre? Parce que après, du coup, c'est au groupe de récupérer le voilier pour l'amener là où il faut l'amener. Donc le mari, du coup, lui montre l'ancre, mais bien sûr, en fait, il ne le voit pas parce que tous les mecs sont cagoulés, on voit que les yeux. Et donc voilà. Ça, c'est la première histoire. Bon, je sais pas si elle est bien racontée, mais elle est très bien détaillée dans le livre. Elle est racontée par quelqu'un qui l'a vécu. Et c'est très bien écrit, c'est très chouette à lire. Et du coup, la seconde histoire qui est qui est parallèle à cette histoire-là, c'est que 14 ans plus tard, donc là, c'est mon collègue qui s'appelle Gunn, du coup, chef de groupe du commando Hubert, anciennement chef du groupe de commando Hubert, qui a participé du coup à cette libération d'otages-là. Donc lui, il est plus d'actif, il est dans son jardin, il est à côté du, il a en fait, il est en train de construire un gîte à côté du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voilà, c'est sa nouvelle vie aujourd'hui. Donc, il est dans son gîte et puis il travaille dans son gîte. Voilà. Et puis un jour, du coup, un jour, il voit. Donc, il est dans son jardin, il travaille dans son jardin et puis il voit un couple. Il voit un couple qui est égaré. Et du coup, il se dit, oh, bon, bah, ça, c'est des pèlerins. Et en gros, bah, il les invite chez lui pour prendre un verre d'eau, pour sortir la carte et puis pour leur montrer où est-ce qu'ils peuvent récupérer le chemin de Saint-Jacques et puis pour continuer leur pèlerinage. Donc du coup, bah, le couple accepte et puis ils vont tranquillement sur la terrasse. Ils boivent un verre d'eau et ils sortent la carte. Et puis naturellement, entre eux, ils commencent à discuter de ce qu'il faisait plus tard, ce qu'il faisait avant, et ainsi de suite, quoi, pour une discussion normale. Et puis le couple répond à Gunn, du coup, il leur dit qu'avant, du coup, ils étaient 6 mois à Tahiti, 6 mois en France, et puis qu'ils travaillaient en tant que convoyeur de voiliers, en fait. Et puis du coup, Gunn, donc petit à petit, ça, la discussion se définit petit à petit, et Gunn leur demande s'ils connaissent le carré d'As. Et puis le couple leur dit, bah ouais, il y a 14 ans, on était pris en otage sur le carré d'As. Et du coup, voilà, c'est là, du coup, bah, il leur explique que lui, c'était le chef de groupe du commando Hubert. Et puis, tu vois, on parlait d'émotion, bah, du coup, ils sont pris dans les bras, ils ont pleuré tous les trois, enfin, ils ont pleuré, ils ont eu des larmes. Et puis voilà, c'était beaucoup d'émotions. Et c'est là, encore une fois, c'est là où je te parle d'hommes, pas forcément de soldats. C'est des trucs qui, bah, même si c'est une très belle histoire, bah, c'est touchant, c'est une très belle histoire qui est touchante. Tout s'est bien terminé, mais c'est quand même quelque chose qui, c'était pas une opération lambda, c'était une opération qui a demandé beaucoup de moyens, qui était très compliquée et qui s'est très bien déroulée. Et puis au final, bah, ces gens-là, 14 ans après, par la providence, il se retrouve, enfin, c'est assez dingue, en fait, quoi. Donc voilà, ça, la deuxième histoire, c'est mon histoire préférée.
Bah, c'est improbable, hein, c'est clair.
Incroyable. Ouais. Et du coup, donc, il y a plein de dans ce livre-là, il y a plein d'histoires, que ce soit sur des assauts, que ce soit sur des histoires un petit peu plus humaines comme celle-là. Il y a un peu de tout. Et puis, comme je te disais, c'est pas moi qui oriente les gars, c'est les gars qui racontent ce qu'ils ont envie de raconter, en fait.
Ouais, c'est clair qu'il doit y avoir. Enfin, j'ai commencé, je t'avais dit, hein, j'ai pas tout lu encore dans le livre. J'ai surtout été happé par les photos et il va falloir que je me pose pour lire les textes parce que plus je discute avec d'anciens militaires et plus je m'en compte aussi qu'il y a des histoires incroyables.
Ouais, pourquoi?
D'ailleurs, c'est devenu un peu plus à la mode aujourd'hui de d'écrire pour les militaires. On a parlé avec plein de collègues à toi qui sont lancés dans l'édition aussi. Les éditeurs, bah, nous on est éditeurs aussi chez Défense Zone, donc on est bien placé aussi pour savoir qu'il y a un intérêt que les gens aiment bien. Toi, t'en penses quoi de ça? Du fait qu'il y ait de plus en plus de militaires qui écrivent, qui se lancent dans l'artistique, ce genre de choses?
Bah, moi, étant donné que je le fais, je vais surtout pas à l'encontre de ça. Au-delà de ça, je pense que écrire, c'est un super moyen pour poser ce qu'on a en tête sur du papier, pour pouvoir réfléchir. Donc moi, perso, je trouve ça vraiment génial. Pour moi, tant qu'on écrit une réalité, bon, je parle pas des gens comme, par exemple, Arthur Hoffner, un ancien de chez nous qui écrit des fictions autour du milieu commando, où c'est des très beaux livres, c'est très bien écrit et c'est très chouette à lire. Au-delà de ça, je parle vraiment des mecs qui écrivent leur vécu, leur réel. Tant que ça reste quelque chose axé sur, bah, sur ce qu'ils ont vécu, sur quelque chose qui dévoile pas des aspects importants du métier, bah, en fait, tant que ça reste de, dans dans ce domaine-là, moi je trouve ça génial, c'est chouette. Et c'est un moyen de. D'une, c'est un moyen aussi de faire connaître l'institution qui, s'il n'y a pas ces gens-là, l'institution, elle reste très très discrète. Et puis, s'ils veulent des nouvelles recrues, entre guillemets, pour moi, c'est la meilleure façon de communiquer sur ce métier-là. Donc voilà, donc moi, non, moi je suis complètement pour. Si ça reste assez discret sur les techniques, sur les tactiques et tout ça, si ça dévoile pas, en fait, moi je suis complètement pour.
Ouais, t'as mis le doigt dessus, hein. Le recrutement, c'est le nerf de la guerre. La fidélisation aussi, peut-être encore plus. Bah justement, à l'heure où on enregistre cet épisode, il y a des politiques qui sont en train de se faire justement sur ces questions-là, au sein des armées, surtout dans le contexte actuel. On en parlait avec Teddy, mais aussi pas mal avec Marius. Marius s'expliquait dans le podcast qu'il était un bon VRP quelque part du recrutement de la marine, parce que son histoire et son personnage qui s'est créé aussi a contribué au fait que les gens s'intéressent à ce métier-là, et mine de rien, c'est vachement bien pour la marine. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui sait pas trop encore ce qu'il veut faire, qui a un intérêt comme ça pour le métier des armes, mais qui sait pas trop dans quoi il va se jeter. Si tu devais parler à ton toi d'il y a quelques années, avant de te lancer, qu'est-ce que tu dirais?
En fait, je pense que c'est vraiment en fonction de la personne qui on a en face, parce que je pense que je tiendrai pas le même discours pour tout le monde. Quelqu'un de passionné par le milieu militaire et qui a vraiment envie d'aller vers une élite, qui veut vraiment se donner, qui veut se faire mal, qui veut aller au bout des choses, entre guillemets, hein, il y a des métiers passionnants chez les militaires. Et qui demande pas qui demande pas le fait d'être force spéciale. Donc moi, étant donné que je connais que cet aspect-là de force spéciale et un peu moins l'aspect militaire, je ça reste l'aspect militaire bien sûr, hein. Je pourrais orienter quelqu'un qui a envie de se diriger vers ce milieu-là, bien sûr, en lui donnant des conseils sur comment s'y prendre, sur comment se préparer. Et puis voilà. Après, moi, je pense que en fait, tant que c'est une orientation qui est faite par lui et puis pas par qui est pas donnée par quelqu'un d'autre, je pense que oui, bien sûr, c'est important d'aller aider ou quoi que ce soit. Je pense de toute manière, dans un métier comme ça, il faut être passionné pour continuer. Il faut être déjà passionné pour finir le stage commando, parce que s'il n'y a pas la passion derrière, s'il n'y a pas l'envie à 100% de le faire, la personne, elle peut avoir les capacités physiques et mentales, mais si elle n'a pas envie de sortir, elle ne sortira pas. Ça va être vraiment trop compliqué. Alors que si la personne a la capacité physique et mentale et elle a envie à 100% de faire ce métier-là, elle sortira du stage commando si derrière il y a le facteur chance qui est là, il n'y a pas de blessure et quoi que ce soit.
Est-ce que, pour compléter ça, est-ce que tu penses que c'est nécessaire, en plus de cette passion, d'avoir cette envie vraiment patriotique, tu vois, de ce côté? Parce que c'est toujours quelque chose qui est un peu compliqué à expliquer quand tu parles avec différents militaires. Même beaucoup d'officiers supérieurs vont jusqu'à dire que les gens s'engagent pas forcément pour la France. En tout cas, pas s'engager pour la France, mais je veux dire, ils vont pas forcément prendre de risques d'être tué au combat pour la France, mais plutôt pour leurs camarades à côté d'eux. Tu sais, c'est un truc qui revient souvent.
Bah, tu vois, je pense que encore une fois, ça dépend personne qui tu demandes. Je sais que j'ai demandé à certaines personnes qui le font parce que ils ont soif d'action, ils ont soif d'adrénaline et c'est ce qu'ils cherchent. Ils vont pas mettre en avant le côté patriotique, bien que probablement ils le soient. Il y a certaines personnes, moi j'ai des amis qui sont devenus commando suite à l'attentat au Bataclan, et puis qui se sont dit. Qui se sont dit, bah, moi j'ai vraiment envie de servir la France et je veux surtout plus voir des horreurs comme ça faites en France ou même ailleurs. Et du coup, voilà pourquoi d'autres se sont engagés. En fait, je pense que l'histoire qu'on a vécue avant les commandos marines, c'est aussi ce qui nous pousse à le devenir. Moi, si je le suis devenu, c'est aussi parce que mon père l'était et puis que naturellement, je me suis dirigé depuis tout petit vers ce milieu-là. Donc, chacun a ses aspects différents bien que tout le monde soit plus ou moins patriote. Certains ne vont pas s'engager parce qu'ils sont patriotes. Beaucoup s'engagent parce qu'ils veulent de l'action, beaucoup s'engagent parce qu'ils ont vécu certaines choses, et ainsi de suite. Donc je pense que bien sûr, certaines personnes doivent s'engager parce qu'ils sont patriotes, mais je suis pas certain que ce soit la totalité des mecs.
Ouais. La passion prend de multiples formes. Pour terminer, si tu avais un dernier mot peut-être à dire sur le livre et un conseil à donner à quelqu'un pour enfin, qu'est-ce que tu dirais comme petit message commercial, on va dire, pour inciter les gens à aller le récupérer dans une librairie et le lire surtout?
Ouais, je pense que c'est un livre qui est ouvert à tout le monde, que ce soit les curieux qui soient un peu curieux de savoir comment ça se passe à l'intérieur de l'institution, pour savoir un petit peu plus en détail comment ça peut se passer, que ce soit les jeunes qui veulent s'engager, que ce soit dans l'armée ou pour devenir force spéciale, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie d'avoir une certaine éthique, de comprendre une certaine éthique ou morale de toutes ces histoires-là. Par exemple, j'ai le père d'un ami qui buvait beaucoup d'alcool, et avant que le livre soit sorti, je travaillais à côté de lui. Et ce monsieur-là, il m'a demandé s'il pouvait récupérer mon ordinateur parce que donc les photos l'avaient marqué. Et du coup, il savait que je travaillais sur ce livre-là. Il m'a demandé si la nuit, il pouvait récupérer mon ordinateur pour pouvoir feuilleter les premiers récits et le livre. Donc, il a feuilleté les récits. Il a regardé le livre. Il m'a rendu l'ordinateur le lendemain matin. Il m'a dit, alors qu'il a rien à faire avec, enfin, il a rien à voir avec le côté militaire, hein, rien du tout. Et en gros, il m'a rendu l'ordinateur et il m'a dit à quel point c'était vraiment impressionnant. J'ai adoré le concept, et les visages et les récits sont très prenants. Depuis ce jour-là, ce monsieur, il s'est remis au sport. C'était un sportif de haut niveau avant. Il s'est remis au sport, il a arrêté de boire. Et puis aujourd'hui, ça se voit qu'il est plus heureux dans sa peau, en fait, quoi. Donc ça, c'est génial. Et ça, même avant que le livre soit sorti. Donc déjà, je m'étais dit, ok, bah, j'ai déjà réussi. En fait, le livre, il est même pas sorti que pour moi, j'ai déjà réussi. C'est trop chouette. De pouvoir impacter, surtout des anciens comme ça qui ont beaucoup d'histoires. Parce que s'il était alcoolique, c'est parce que derrière, il y avait des histoires. Et de pouvoir impacter des gens comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça génial de pouvoir orienter du bon côté une personne avec autant d'histoire et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, donc avant même qu'ils sortent, moi je trouvais que j'avais déjà réussi. Et du coup, voilà, tout simplement pour dire qu'il peut convenir à tout le monde, il n'y a pas forcément que les copains militaires qui vont l'acheter, quoi.
Super. Bah, le livre qui permet d'arrêter de boire. Ah, petite blague à part, mais super histoire, super histoire.
Parler bon prendre conscience, tu vois.
Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est super inspirant et c'est génial de pouvoir discuter avec des gens comme toi et plein de gens qui sont passés dans le podcast, qui ont des histoires super intéressantes à raconter, qui sont inspirants. Et c'est peut-être ce qui manque aussi à beaucoup de gens dans notre société, des histoires inspirantes. Donc, c'est top.
On essaye en tout cas et moi personnellement moins, mais tous les mecs qui ont raconté dans le livre, sont vraiment très inspirants. C'est des sacrées personnes, sacrés personnages, et je suis sûr que ça peut apporter à beaucoup de gens. Je cherche pas forcément à faire vendre le livre, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'une fois que les gens ont lu le livre, qui se sentent mieux et peut-être même qu'ils aient appris quelque chose par l'intermédiaire de personnes qui ont vécu pas ce côté militaire, mais qui ont vécu un tas de choses qui sont peut-être un petit peu plus, comment dire, qu'on vit un petit peu plus dans ce milieu-là de force spéciale, parce que on est mis un peu le nez dedans, quoi. Donc voilà.
Super, du coup, je te remercie. On peut retrouver ton travail sur Instagram.
Sur Instagram, c'est beaucoup de mes photos aquatiques. Je mets aussi quelques images du livre de temps en temps. Donc voilà, ouais, tout à fait. Sur Instagram, Kélian Bière, il y a mon travail.
Yes, donc Kélian, K-E-2-L-I-A-N tiré du bas, B-I-U-R. Ça, pour les gens qui nous écoutent pour aller voir ça. Abonnez-vous et allez voir ça, c'est vachement bien. Merci pour cet échange
Merci à toi, Fred.
et à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode.